Bonjour Sylvain.
Bonjour Sylvie, tu vas
Voilà.
bien? Ça c'est.
Oui. Oui,
Alors,
ça fait bizarre de s'être par Zoom comme ça, mais bon, c'est la période qui
c'est
veut ça. D'ailleurs, tu as même un morceau qui conclut ton album qui s'appelle Confinement. On va en parler après.
Ouais, qui est composé par mon fils, là, ouais.
Ah, c'est ton
C'est lui
fils,
qui a
voilà,
fait
parce que
ça.
j'allais te poser la question, parce qu'il y a deux morceaux de l'album qui sont pas de toi, toutes les compositions sont de toi, sauf
Oui.
le morceau 8 et le morceau 18, et j'allais te demander
Voilà, c'est ça.
justement qui c'est, qui est l'auteur de ces morceaux. Ben, c'est ton fils, alors.
Alors, mon fils, il a fait le dernier, là, la période de confinement. Et moi, j'ai joué par-dessus. Je trouvais ça tellement sympa de pour sa génération. Il a 14 ans, tu vois. Donc,
Waouh! Génial, génial, génial.
ouais, parce que j'en ai deux, si tu veux, comme toi. Et j'en ai deux, c'est-à-dire que l'un a 28 ans et celui-là, il a 14. Et il adore tout ce que toi tu aimes, c'est-à-dire il voudrait faire journaliste quelque part. Je sais pas.
D'accord, ok. Il veut pas être musicien. C'est pas lui, alors Joachim Marc. Joachim Marc dans l'album,
Ouais,
c'est
c'est
pas
ça.
ton fils, c'est ça, hein? Il a 14 ans.
C'est mon fils, 14 ans, oui. Il a
Voilà.
14 ans et il a fait ça. Donc je dis, allez, viens, rentre dans le club. Comme ça, tu seras aussi à la SACEM, quoi.
Exactement. Donc,
Voilà.
il est pianiste, c'est ça? Il est pianiste.
Tu sais, maintenant, ils ont des, comment on appelle ça, des logiciels comme nous, comme moi, avec Logic et tout ça. Mais ils ont des logiciels où il peut jouer, lui, faire des accords sur un petit clavier USB, là. Il fait les trucs, il fait les basses, ils font tout. Tu sais, comme tous les youtubeurs, là, quoi, tu vois. Et ils font de la musique comme ça. Et lui, là, ça a été composé en décembre l'année dernière. Il a composé ça. Il a mis en page et tout. Et, bah, il se débrouille très, très bien là-dessus, tu vois. Et donc, il m'a fait écouter. Je dis, ah, j'ai craqué. Je dis, c'est bon, on y va, on fait ça. Voilà, quoi, tu vois. Et l'autre morceau, tu vois, c'est Birdland de Joseph Zawinul. Tu vois,
Exactement, exactement, qui a des morceaux magnifiques et que tu as complètement revisité. Tu es un immense bassiste, tu as travaillé avec tout le monde, il faut bien le représenter. Voilà, tu as travaillé avec
de.
Michel Jonas, Chris Rea, Rina Lara, Nina Simone. Quelle est la
C'est vrai.
personne, quel est l'artiste qui t'a le plus marqué dans toutes ces collaborations?
Alors, je vais te dire sincèrement, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je suis arrivé en France, c'est-à-dire dans les années 70, au début, première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir un monsieur qui s'appelle Jeff Gilson, qui était 4 ans auparavant bloqué à Madagascar, pas à cause de mai 68. Donc, il était là-bas en tournée avec Jean-Charles Capon et Raymond Bonnie. Et ils étaient bloqués à Madagascar. Voilà. Je l'ai connu comme ça. Parce qu'il était bloqué au centre culturel français, là, que tu connais sous les arcades.
Exactement.
Et voilà. Et là, ils étaient assis, les trois, dans la salle du centre culturel. Et il y avait un monsieur qui jouait au piano. Enfin, il faut que je te raconte ça, vite fait.
Non,
Un
vas-y,
monsieur
vas-y.
qui jouait au piano. Et eux, ils écoutaient, ils se disaient entre eux, mais merde, les mecs, ils jouent du jazz ici, en pensant que c'était chez Pygmée, quoi. Et donc, et tout d'un coup, Jeff, il s'est levé parce qu'il est comme ça, Jeff Gilson, il est allé voir le monsieur, bonjour monsieur, dites-moi, vous avez un orchestre de jazz, vous jouez du jazz ici et tout, parce que là, vous jouez Duke Ellington et tout. Et le gars, il dit, non, non, monsieur, non, monsieur, moi, je suis planton. Et là, tu sais, il s'est écroulé en fait avec les deux autres et il a dit, mais c'est pas possible, mais il y a des musiciens alors ici, oui, ils jouent tous les jeudis, messieurs, tous les jeudis avec l'accent malgache, tout le truc. Et là-dessus, ils sont venus le jeudi et ils ont pris une grosse claque. Donc moi, j'ai rencontré Jeff comme ça, il m'a dit, t'arrives en France, je vais te voir et on fait quelque chose ensemble et tout. Et c'est là où j'ai fait Madagascar Now avec Del Rabenz et tout ça. Ça, c'était le premier G, quoi, qui est maintenant redistribué par des Anglais et tout ça. Enfin, bref, voilà. Et ensuite, on a fait Fougament Band, un groupe uniquement de réunionnais, un batteur réunionnais et de mon frère, mon cousin et un autre Del Rabenz. On a fait ça pour Guy Lux. Pour produit Pèlerin. Bon, voilà, parce qu'on voulait avoir des sous-sous, tu vois. C'est le début de ma période française. Mais funky. En fait, je travaillais déjà énormément à La Réunion. À La Réunion, j'étais parti en 68 à La Réunion. Donc de 68 à, enfin 69, quoi, de 69 jusqu'en fin 71, j'étais à La Réunion et j'ai travaillé pour une compagnie de Jean-Jacques Clader qui était filiale Madagascar, Maurice, Réunion. Voilà, c'était distribué comme ça, quoi, en triangle, un triangle, quoi. Et moi, j'ai travaillé à La Réunion, donc en studio et scène, c'est-à-dire avec le club rythmique qui ont joué. Mais j'étais blindé de blé. Non, je... Mais ça va. Mais ça marchait très, très bien. Ça marchait très bien. Et donc, ça m'a permis de payer mon voyage pour venir en France avec ma femme et mon gosse, ma fille qui a 50 ans maintenant, quoi.
Donc, et, voilà. Et ensuite, est venu galérer à Paris, alors, après.
Et ensuite, pour moi, ouais, exactement. Non, non, mais c'est vrai. Le truc, c'est que La Réunion, comme c'est eu... voilà, et je suis venu galérer, comme tu dis, mais une bonne galère en commençant avec des... déjà en 72 avec Guy Lux, c'est intéressant, quoi. On était pris en main. Et ensuite, j'ai rencontré, comme j'en avais marre de ce truc-là aussi, j'ai revenu à mon instrument de base qui est la basse, où j'ai commencé à 12 ans cet instrument, parce que personne ne voulait en jouer dans le groupe où j'étais.
Et pourquoi tu as choisi la basse, justement, en fait?
Parce que j'ai pas choisi. À cette époque-là, c'est-à-dire ce que je te remonte le truc. C'est en 60, quoi, 60-61. Là, j'avais à peu près, j'avais 60-61, j'avais 12 ans. Et on a fait un groupe, un super groupe. Hein, et personne dans ce groupe, c'était un quartet, ne voulait jouer de la basse.
On va parler de la basse parce qu'au départ, justement, comme tu le dis si bien, c'est vraiment un instrument d'accompagnement. Et au fil des décennies, d'ailleurs, on voit maintenant, il y a une émergence des grands bassistes de tout du continent africain. Oui. Aujourd'hui, comment tu le définirais comme instrument?
Au début, comme j'étais guitariste, comme je viens de te dire, j'avais une notion de cette quatre cordes comme accompagnement, comme instrument de base, en fait, hein, comme les toniques, quoi, enfin, tout ce qui est la base, quoi, de la musique, tout ce qui est le plus lourd possible, mais en même temps, j'avais aussi, je connaissais les accords et tout ça, donc moi, ça me permettait de composer, de faire plein de choses, en fait, par rapport à la guitare, et donc, là, on s'est tout de suite intéressé à des gens, comme je dis, les chefs-d'œuvre, les Beatles, les Rolling Stones, enfin, tous ces groupes anglais, tous ces groupes américains, parce qu'à l'Atlantique, c'était pareil, avec James Brown, avec les frères Montgomery et tout ça, ils ont commencé à faire des disques avec tout ce qui était le rhythm and blues, le funk. Quand moi, j'ai écouté James Brown pour la première fois en 63, je hurlais dans mon lit, et mon père, à 3h du matin, il dit, il est devenu fou, mon fils, parce que Lorenzo Marquez, la radio, Lorenzo Marquez, nous, on écoutait ça avec radio Caroline, tu D'accord. vois.
Lorenzo Marquez, c'était au Mozambique, c'était la capitale, la fameuse Maputo, il faut le dire. Hein, donc. Voilà. Vous écoutiez les musiques qui venaient du Mozambique, alors.
Du Mozambique, non, mais en fait, eux, ils diffusaient, Lorenzo Marquez, tout ce qui se passait en hit dans le monde entier, des choses américaines, anglaises, australiennes et tout ça, les Bee Gees, tout ça, à l'époque. Bien avant même, et il y avait, ça je parle ça des années 60, hein, et il y avait aussi Radio Caroline qu'on captait dans l'océan Indien. Donc quand on a trafiqué avec mon frangin des trucs pour écouter sous l'oreiller, contre les moustiques et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a écouté, moi pour la première fois, j'ai écouté I Got a Feeling de James Brown, et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un entendrouille. Les entendrouilles, tu sais, c'est les malgaches du Sud, oui. Là, les tribus du Sud, qui dansent comme ça, qui dansent. Et je dis, mais c'est pas possible. Écoute ça, c'est un Américain et tout, avec mon frangin, mais en pleine nuit. Donc voilà, je coupe le truc comme ça. La basse, pour revenir à la basse, encore une fois, j'ai fini par beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer cet instrument, parce qu'en fait, comme je le comprenais, c'était facile pour moi de jouer cet instrument dans les balles, parce qu'on faisait des balles. Hein. Ça commençait à 9h, ça finissait à 7h du matin, non-stop. Pas comme en France où ça s'arrête. Donc là, c'était notre conservatoire à nous, quoi. on commençait à 10 heures, on finissait à 9 heures, on finissait le répertoire à 10 heures, et après, il fallait inventer. Il fallait tcha-tcha, mi bémol, ça commence direct, c'est fa mineur, quoi. Pam, 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 patado, pam, poda. C'était comme ça, quoi, tu vois. Donc là, ça formait l'oreille et tout. Et ça nous a un peu abîmé. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a un peu abîmé par rapport à la musique écrite, quoi.
Il y a eu un conflit entre cet apprentissage de l'écrit et cet apprentissage à l'oreille, ouais.
Énorme, parce que quand j'étais arrivé à Paris, figure-toi, après tout ce que j'avais fait en bas là-bas et tout ça, l'enregistrement à La Réunion avec Maxime Laope et tout ça. Ah oui, 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 c'est moi qui ai proposé à Maxime Le Forestier de faire en bas là-bas. Il a chanté pendant qu'on répétait le premier jour. Je dis, ah, tu chantes créole. Je dis, mais écoute, je l'ai enregistré, ça, tu devrais le chanter. Voilà comment ça s'est passé. Ça, il peut l'entendre. Ça, grave. Si tu veux, le handicap que j'ai eu, c'est je faisais les bœufs. Donc, c'était la rive gauche à l'époque, chez Félix, Caméléon et tout ça. Mais il fallait trouver du boulot. Donc, j'allais avec un bongo, puis j'ai joué. S'il y avait un truc, je jouais. Il y avait des super musiciens monstrueux. Et un soir, je faisais le bœuf avec Eddie Lewis là, et tout ça. Et je me dis, qui sont ces mecs-là? Avec Steve Ferroné, tu sais, qui jouait dans Average White Band, là. Mm-hmm. Donc, on a... Mais tu restes là, tu bouges pas avec le bongo et tout. Donc, moi, je prenais les numéros de téléphone de tous les mecs pour me brancher. Et j'étais tombé, si tu veux, sur un producteur qui m'a dit, bon, demain, il y a studio à la Grande Armée. Je dis, c'est où? Il me dit, c'est là. Donc, je suis allé, moi, avec la basse. Et arrivé là-bas, ils m'ont filé une feuille comme ça, une partition. Et je regardais la partition et je dis, mais je comprends rien, là, c'est du chinois pour moi. Et là, c'est ça, ce que tu dis, c'est la grosse claque. C'est-à-dire que je suis allé à Rue de Rome et j'ai acheté 10 bouquins en clé de fa. Et j'ai travaillé la basse comme ça, parce que j'avais pas d'autre boulot que la musique. Donc, j'ai travaillé, j'ai appris tout ce que je connaissais déjà, j'ai foutu par terre, et j'ai, par exemple, pour faire pam, 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 comment ça s'écrit, alors que ça, c'est un truc que je connaissais par cœur. Patapam, patapam, pata. Ça s'écrit comme ça, patatam, patatam, pata. Bon, ben, ok, c'est comme ça, j'ai travaillé ça comme ça. J'apprenais tout seul. Mes enfants, ils m'ont vu que devant une partition chez moi, famille et fille, quoi. Et Martha et Naïma. Bonjour Martha, bonjour Naïma.
Mais donc, tu as fait ton conservatoire tout seul. Tu t'es auto-conservé. Voilà. Je ne sais pas comment on pourrait.
Ouais, non, mais sérieux, c'était comme ça. Tu poses des bonnes questions. Et ensuite, connaissant la musique, enfin, les balbutiements du truc, je me suis dit, ben, ça y est, je vais bosser ça vraiment comme il faut. Et je suis tombé chez les Lowkoud. Voilà. Didier cherchait un bassiste. Après un bassiste niçois, Benny Brunel, qui est parti aux États-Unis avec Chick Corea, et eux, ils cherchaient un bassiste. Donc, le batteur, Jean-Louis Truong, il a dit, attends, je connais un mec monstrueux, enfin, tu vois, un truc. Donc, j'étais embarqué là, et j'ai joué des trucs que j'ai jamais joué de ma vie, les 7 ans, les 7 et demi, les trucs comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Je me dis, c'est bizarre, c'est bancal leur musique. Tout le truc. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le groupe Souria de Didier Lowkoud. On est resté 4 ans comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Jonas avec Manu Katché et tout. Manu Katché, on jouait déjà ensemble auparavant avec Lavelle.
Comment tu as trouvé la scène jazz parisienne par rapport à justement La Réunion, Madagascar?
Paris, c'est énorme quand tu ne connais pas. L'histoire en fait, de la musique, c'est à Paris, c'est les caves, les rencontres dans les années 70, hein, au début des années 70. Moi, j'y allais pour au challenge, comme quand tu es à New York et tu vas à Blue Note partout, dire, je vais faire la pute, quoi. Je vais essayer de jouer. S'il y a 2 secondes, je vais me faire 3 notes. Et si je peux rester un peu plus, ça va être génial. Donc, c'est comme ça, en fait. Et après, on a traversé la Seine quand il y a eu les trous des Halles. Tout d'un coup, on s'est retrouvé, donc à cette époque-là, c'est 75, et, non, 75-80, 80, avec, dans la rue des Lombards.
Ouais. Au, Baiser Salé, Sunset et tous ces clubs-là. Voilà. Voilà,
c'était d'abord le Sunset, qui était une boîte à putes, excuse-moi de dire ça comme ça, je m'excuse.
On était près de la rue Saint-Denis, hein, on était près
voilà,
de
la rue Saint-Denis. Voilà, la rue Saint-Denis, le Sunset, et il y a un copain, un bassiste d'ailleurs, qui était dans The Voice, là, Marc Perrier, qui a dit à Jean-Marc Porté, le patron du Sunset, il a dit, dis donc Jean-Marc, tu devrais ouvrir une boîte en bas. C'est vachement grand et tout. Et là, comme c'est un monsieur intelligent, en 15 jours, il a ouvert sa boîte, quoi. Et c'était comme ça qu'on a commencé avec Christian Escoudé, Francis Lecoud et moi, on est resté 15 jours, parce que avant c'était 15 jours, tu vois.
Et alors, mais, Francis Lecoud, vous êtes toujours ensemble, puisqu'il est sur ton dernier album, là, justement.
Mais c'est mon amant. Non, c'est mon ami, vraiment, de longue date, on habitait ensemble, en fait, avec Francis, dans les années 80, on habitait à Courbevoie ensemble, et un bel endroit où tout le monde venait répéter et tout ça, à Courbevoie, et depuis cette période où on était avec Didier Lecoud de groupe, cette fois-ci, depuis cette période, on ne s'est plus lâché avec Francis, quoi, et Didier. On est resté, même quand il y a, avec les parents et tout ça, le père Yves et la mère. Enfin, je les connais très bien, quoi. Voilà, c'est les frères Lecoud. Et puis, on a toujours fait des tournées, des kilomètres, mais des. Partout. Donc, surtout avec Francis, quand on est parti aux Caraïbes, tout ça, avec Aldo Romano, tous les autres qui sont sur l'album, c'est pareil. Même les jeunes, là, ils sont tous des amis de 30 ans, 30 minimum, quoi, 30 ans, 20-30 ans, et avec Francis, c'est 40-45 ans, quoi.
On va parler des musiciens, parce qu'il y a un tel florilège de musiciens, c'est impressionnant le nombre de musiciens sur cet album. Alors, je vais citer quelques noms, mais alors, déjà, le premier titre, j'étais là, je suis tombée raide, parce que j'entends la voix d'Idrissa Diop. Donc, Nago était tu sais que Nago était le manager d'Idrissa dans les années 80. Tu ne savais et pas voilà. Ça la boucle est bouclée. Et c'est incroyable. Et alors après, ben, je vois les Mario Canon, je vois, voilà. C'est fou, quoi. Enfin, tu vois. Donc, il y a tout ça. Nicolas Rakotova, j'avais oublié, mais c'est aussi un mec qui a pris la flûte malgache aussi. Ça réunit tous les potes, là. Il y en a au moins, il y en a combien? 40 ou je
sais pas. 41, t'es pas loin. Mais en fait, le truc, c'est qu'au départ, moi, quand Macron avait dit, vous êtes confinés, vous êtes pris... Voilà quoi. Moi, je ne comprenais pas le mot confiné jusqu'au moment. Enfin, je comprenais, mais je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va être enfermé, on va être enfermé, quoi. Et on ne voit pas le microbe et tout. Enfin, bref, je ne veux pas revenir là-dessus. J'ai appelé Benoît, mon ami Benoît Wiedemann. J'ai dit, Benoît, j'ai un projet. Je voudrais mettre en dur des morceaux que j'ai, des arrangements que j'ai, beaucoup d'arrangements. Et je voudrais collaborer avec toi. Pour la technique, parce que Benoît Wiedemann, c'est vraiment un grand ingénieur et il fait des programmes, enfin il fait beaucoup de programmation sur internet. Enfin, il est connu comme ça et en même temps pianiste et il joue du Moog et tout ça, c'est un synthétiseur man, on va dire. Et donc il m'a dit ok, on y va, je vais bosser en parallèle entre ton matos, c'est-à-dire mon Logic 10 et son matos qui est le, comment on appelle ça, qui est performer. Donc, je l'ai envoyé en premier tout ce qui était déjà enregistré comme pulsion avec Idrissa et Caligali. Voilà les premiers morceaux avec lesquels on avait commencé. Parce que tout était déjà sur mon ordinateur. Donc, le quatuor à cordes, alors ça s'est opéré comme ça, on a enregistré les quatuors à cordes d'abord, le quatuor à cordes, ensuite... Moi, j'ai fait mes basses. Ensuite, il y a avec le baryton, tu vois, sur ce morceau, où il y a Idrissa. Ensuite, j'ai fait venir Idrissa, qui j'ai dit, tu vas chanter, là. Mais d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas ce qu'il chante. Il ne m'a pas envoyé le texte. Rien. C'est ce que j'ai demandé à Dago la dernière fois. Et ça a commencé par la voix du musicologue à France Inter. C'est là que j'ai composé ce morceau, à cause ou grâce à ce monsieur de France Inter, qui a dit oui, les griots, à un moment donné dans le disque, il dit ça, oui, les griots n'ont pas le droit de jouer, c'est que les forgerons, et patati et patata, et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tout, pendant un moment, j'ai enregistré ce qu'il disait.
On va parler de ce premier morceau, parce que c'est le premier morceau qui est assez extraordinaire. J'avoue que, si tu veux, si je dois résumer l'album, excuse-moi de te couper un peu, mais si je dois résumer l'album, Pulsion, c'est dans Pulsion, il y a toute cette ambiance de rue, il y a le violoncelle, il y a la voix d'Idrissa, les percussions légères, le classique, il y a tout. Alors, moi, ce qui m'étonne, alors, si on résume un peu l'album, c'est que c'est un album extrêmement déroutant, c'est-à-dire... C'est un voyage, c'est-à-dire dans chaque morceau tu commences et tu ne sais pas où tu vas finir en fait. Voilà, donc tu
pars. C'est confiné, j'avais envie de partir. Moi j'avais envie de partir, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je suis frustré parce que je ne voyage plus et je ne joue plus pour les gens qui voyagent avec la musique quand ils nous écoutent jouer. Quand je joue avec X, Y, Z, on finit les 2 heures de concert n'importe où, à l'Olympia, n'importe où, où il y a du monde, les gens, ils repartent heureux en voyageant chaque morceau, que ce soit chanté ou pas. Donc voilà, ça résume exactement les plages que je voudrais aller, que j'aurais voulu aller. C'est-à-dire, Pulsion, Cubano, Suga, c'est... Voilà.
Il y a de tout, c'est-à-dire en fait, on se rappelle dans le classique, on a ces violoncelles, ces altos et tout ça, on a le jazz évidemment qui est omniprésent, qui est la base, hein. On peut dire, pour moi je dirais que l'album est toujours construit quand même sur cette base de jazz, et puis après on va dans le flamenco, on a même de la musique orientale, donc je rappelle le morceau là qui est un peu ces sonorités orientales qui est vraiment incroyable.
Image de Savane, bravo.
Voilà, exactement.
Avec Sylvain Luc.
Voilà.
Et mon docteur Gérard Amselem, qui est un ORL, mais en même temps un grand musicien, quoi. Donc voilà, on a fait ça. Vraiment, on était enchantés de le faire ensemble. C'est-à-dire que là, s'il me demande un centime, je suis ruiné.
C'est pour ça que c'est magique, parce que t'as autant de toute cette richesse là, cette richesse. Merci le confinement, parce que t'as pu voir tout le monde. Personne n'était en tournée, donc t'as pu faire ce que tu voulais. En fait, c'est ça.
Mais sans profiter, c'était pas dans un but politique intéressé ou quoi. C'était vraiment parce que tout le monde aimait les morceaux. D'abord, parce que quand j'ai envoyé les partitions, c'était la condition, par exemple, en ce temps-là, avec Khalil Shaheen, je lui ai envoyé le morceau écrit, la partie qui doit être déposée, etc. Il a écouté et il m'a dit « ça me plaît ». Et j'ai dit « tu écris les arrangements, tu le fais pareil avec Bertrand Richard pour Couleur pourpre, avec sa femme à l'alto ». Et c'était pas parce que je voulais que des violons, des trucs classiques ou quoi, mais moi j'ai pas de racisme, j'ai pas de frontières en fait. Hein. C'est moi qui joue les bongos là des fois, c'est moi qui fais les. J'adore tout ça, toute la musique terrestre en fait. Quoi. Bah, pour moi, la musique c'est le seul moyen de ne pas être raciste. Voilà, pour moi c'est ça.
Alors, on va parler, comme tu viens de parler des bongos, je vais rebondir sur les percussions, sur la place des percussions qui est hyper intéressante parce qu'il y a cette dimension, cette couleur jazz des percussions, cette discrétion. Des fois, elles sont omniprésentes, mais elles sont tellement légères et tellement… Enfin, je sais pas, elles se fondent dans la musique. Elles ne sont pas… Tu vois, elles ne sont pas en train de… Ce n'est pas des percussions anthropophages, si je peux le dire. Elles ne bouffent pas tout parce que dans beaucoup de groupes… T'as la percussion, ça y est, c'est parti mon kiki, mais là j'aime bien les arrangements que t'as fait et la place que t'as donnée aux percussions. Donc, j'aimerais bien que tu me parles un peu, justement, parce que tu as du sabbat, tu as les bongos, tu as plein de styles de percussion.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour envoyer comment dirais-je, les fichiers, par exemple, le deuxième morceau cubano, j'ai ma femme qui a son studio plus loin, là, dans la maison, et c'est elle qui joue le piano. Donc, je lui ai envoyé par email, en fait, je lui ai envoyé les parties à jouer, donc elle a eu le temps de travailler. Et ensuite, pareil, Cyril Zardé, il a fait les quatre, c'est-à-dire les deux violons, alto et violoncelle. À tout seul, il l'a fait. Donc, chez lui, dans son studio, oui, parce qu'il a des pédales pour octaver ses violons, en fait, quoi. Donc, c'est l'alto, ça devient violoncelle quand il met un octaveur. Donc, là-dessus, j'ai envoyé, voilà. Mais non, mais il y a tout un truc, il y a toute une technique nouvelle, si tu veux, par rapport à l'enregistrement. Et moi, c'est moi qui ai fait tout ce qui est ici, à la maison, tout ce qui est les bongos, les djembés, tout ça, c'est avec des programmations où je joue à la main comme ça, mais sur mon clavier. Quand je faisais ça. Donc, eux, au lieu d'avoir une boîte à rythme, tic, 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 et ma basse, ils avaient déjà l'ambiance de bord de mer à Cuba, quoi. Et puis. Et donc, c'était facile pour dire, bon, ben, ok, c'est ça qu'il veut, on y va. Et il n'y avait plus qu'à lire. Et les autres, pareil, tu vois, les autres morceaux, Boplicity. Je voulais être comment on appelle ça, à Birdland, la boîte Birdland de New York avec Charlie Parker et tout ça. Avec les trompettes et tout ça. Et tout le monde a joué le jeu. Mais il fallait que je l'écrive avant. Tout était écrit auparavant, comme tu me parlais de ça l'autre jour. Tout était écrit auparavant. Certains arrangements que j'ai faits, moi, à part ceux que je viens de te citer, Camille, Khalil Shaheen, Bertrand Richard et mon fils, le reste, c'est moi qui ai écrit. Birdland, il n'y avait pas de partition écrite de Zawinul. C'est maintenant que ça existe. Donc j'étais obligé, moi, de me taper, c'est pour ça que c'est les flûtes, de me taper tous les synthés qui jouent en écriture, quoi. Donc, c'est plus facile pour moi d'écrire pour une flûte, d'écrire pour le soprano et tout ça. Et pareil, par exemple, Images de Savane, j'ai envoyé à Sylvain mes deux basses. Il y a deux basses. Et lui, il a joué par-dessus ces deux basses avec un zoom, tu vois. Et tu vois ça. Et
Ah, mais ça,
je
c'est
retrouvais.
alors ce
C'est le truc
morceau-là, et Images de Savane notamment, alors il y a vraiment un travail sur les cordes qui est très intéressant. Tu as l'impression, en même
plaisir.
temps, des fois, d'écouter de la kora, d'écouter de la valise, je ne sais pas, je sais que
Voilà.
c'est pas de classique, mais elle se transforme. Elle se transforme, c'est incroyable.
Ça, c'est Sylvain. C'est Sylvain qui joue deux guitares. Il joue deux guitares et on a l'impression d'être sous la tente avec les dromadaires, quoi. Et c'est ça, l'effet que je voulais retrouver à la fin. C'est-à-dire les deux basses, les deux guitares et le darbouka de Gérard, parce qu'il est marocain d'origine, Gérard. Donc,
Ah, ok.
il est juif marocain, ouais. Et bon, il est à Paris, nul n'est parfait. Donc, il a fait ça, mais vraiment fantastique. Et pareil, les autres, Sainte-Marie, tout ça, je voulais être sur la plage à Sainte-Marie, l'île de ma mère. C'est ma mère qui est née là-bas et tout ça, c'est les Feelingas. Et moi, quand j'avais été la première fois à 8 ans, j'ai pris la première fois un avion et on est allé à. Donc, c'était en 57, 56, et on est allé à Sainte-Marie. J'ai trouvé ça, mais magnifique le pays, l'île, quoi, la petite île, il y avait des baleines, il y avait tout ça. Et c'est là, je voulais être sur la plage, sans batterie, sans rien, juste. Tout le monde, c'était. Voilà, tu vois, c'est. En fait, le hasard a fait que chaque morceau a une connotation, ce qu'on veut. Mais pour moi, la musique, on ne peut pas l'enfermer dans le côté comme beaucoup font. Hein. Ah, ça, c'est du jazz, clac, on met ça ici. Ça, c'est classique, on met ça là. Ça, c'est du folklore africain, on met ça ici. C'est insupportable.
On va parler de Couleur pourpre aussi. C'est un morceau tout à fait à part dans l'album. Il détonne par rapport à l'ensemble de l'album parce qu'il est très méditatif. Il part dans cette... Alors moi, j'adore les cordes aussi dans ce morceau qui est complètement, méditatif et en même temps assez classique.
Il part dans pourpre, voilà.
Couleur pourpre, exactement. Et... Ouais, voilà.
Ouais. Alors, Couleur pourpre, j'ai proposé à mon grand ami Bertrand Richard, qui est un grand pianiste, et c'est la famille Richard qui est un facteur de piano français, Pleyel Richard.
Voilà.
Donc, ses grands-parents fabriquaient les pianos et tout ça. Donc, il est né là-dedans. Mais j'ai proposé à Bertrand, est-ce que je t'envoie un morceau, si tu l'aimes, tu fais l'arrangement. Non, tu joues le piano. Et il me dit, ouais, d'accord, envoie-le-moi. J'envoie la partition et tout. Et il m'appelle, il me dit, Sylvain, j'ai fait un énorme rêve. Alors, je ne sais pas si c'était de la drague. Mais j'ai fait un énorme rêve. J'ai rêvé ça. Donc, je vais l'écrire. Ben, je dis, ben, vas-y. Alors là, vas-y. Comme il y avait sa femme qui était à l'alto, là, chez lui, et Makiko. Et donc, Makiko, elle a dit, OK, moi aussi, je vais jouer, etc. Donc, Makiko et lui, lui, il a écrit et tout. Il m'a envoyé ma partie à jouer. Donc, ça, c'était vraiment imposé pour moi. J'avais rien à faire d'autre que jouer ce qui a été écrit. Et c'était très, 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 très haut. J'ai des crampes avec ma main. Très très haut au niveau de la tessiture, quoi, tu vois. Donc j'ai dit waouh, super, je prends le challenge, je fonce dessus et je vais faire ce morceau avec lui. Donc on l'a fait, et toujours Benoît s'est occupé aussi bien du mixage que du mastering, mais en ayant ma mise à plat, tu vois. Ici, ma session, j'avais déjà mis la couleur que je voulais entendre plus ou moins, et que Bertrand avait homologué, en fait. C'est très démocratique, quoi, tu vois. Donc, j'ai envoyé ça à Benoît, et Benoît m'a dit, mais c'est monstrueux, c'est fantastique, allez, on est... Et tout était à chaque fois comme ça, tu comprends ? C'est... Tu vois, à chaque fois, chaque titre, en ce temps-là, c'est pareil. Tu vois, en ce temps-là, c'est le morceau
le 14e, avec les percussions. Il y a le swing latino, il y a tout ça, il y a les percussions jazz en intro.
Donc les percussions, c'est moi.
Tu commences par des percussions. C'est ça qui est intéressant en plus. Et puis elles sont légères, comme je te disais. Et puis tout de suite, ça part ailleurs. C'est intéressant.
Oh, merci beaucoup, Sylvie. Mais parce que c'est un truc. Là, non, mais t'es dedans, là. T'es dans la réalité du truc. C'est ça. Donc là, comment on appelle, en ce temps-là, lui, quand il a écouté ça, Khalil, il a dit waouh, enfin Khalil, Khalil, il était complètement enchanté. Il a dit ouais, je le fais avec ma fille Anna Luna, qui elle est premier prix du Conservatoire de Paris. Donc elle a quoi, elle a 18 ans maintenant, Anna Luna. Mais je l'ai connue toute petite, quoi. Et donc, c'est pas possible, elle joue comme ça et tout ça. Et donc, il a écrit tout ça. Et Eric Seva, au sax ténor, baryton et soprano, a rajouté dessus pour étoffer un peu tous les arrangements de cordes et tout ça, quoi. Donc, ça donne une épaisseur, ça donne... tu vois, c'est un peu un jeu entre nous d'orchestration et tout ça, quoi, tu vois. Parce que c'est pareil notre morceau, le swing du Pélan. Le Pélan, c'est une petite rivière qui passe en bas de chez moi, là. Juste en bas, on a l'impression d'être en Chine, quoi. Quand on est arrivé ici, je dis, ah putain, c'est le Pélan. Je dis, je vais faire un morceau qui s'appelle le swing du Pélan. Donc ça veut pa 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 il a fait les arrangements. Il dit, j'ai jamais écrit comme ça, parce qu'il n'écrit pas comme ça sur son disque. Et donc, je dis, mais vas-y, lâche-toi, vas-y, écris comme ça, enfin, comme si tu avais le big band derrière toi. Et donc, ça donne ça, mais il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de percu, il n'y a rien, il y a juste nous deux, quoi. Mm-hmm. Voilà, ouais, tu vois, ça laisse de l'air, il y a un côté un peu monquien, comme ça, enfin, voilà, tu vois. Mais c'est pas que le jazz, moi, si tu veux, ce que j'ai peur, Sylvie, c'est que j'ai peur d'être enfermé dans un style, alors que j'adore tous les continents où j'ai été, quoi, tu vois. D'Afrique à l'Amérique, j'adore l'humain, quoi. Voilà, sans être.
Et donc ça se sent dans ta. Tu ne choisis pas, en fait. Tu prends tout et tu vas d'un monde à l'autre, tu circules d'un monde à l'autre. Alors je prends la tendresse de Bouboune. J'ai beaucoup aimé ce morceau aussi, ce de Bouboune, voilà. La tendresse de Bouboune avec ce côté flamenco, jazz. Alors ça c'est très beau, la guitare flamenco, le jazz et ce final très très dépouillé avec les cordes boum à la fin complètement là où ça se termine d'une manière très épurée, très c'est génial quoi. J'aime beaucoup aimé quoi.
Et Bouboune en fait c'est j'aime beaucoup. J'ai mal aux doigts, c'est incroyable. J'aime beaucoup ma femme. C'est dans... avec qui j'ai eu Joachim, qui est grande, c'est une grande pianiste en fait. Hein. Mais elle est un peu ma personnalité là, j'ai l'impression. Quoi. Des fois, ça fait un peu. Mais je l'adore. Donc je suis obligé de lui dire oh, mais c'est pour toi là, Bouboune. C'est Bouboune. Il m'a dit, mais ça fait un peu manger chinois, Bouboune.
Vietnamien. Le Bouboune du Vietnamien.
Donc, c'est comme ça que j'aime. Quoi. Et elle m'a. Donc, on a joué ça avec un monsieur, un prof de Boulogne-sur-Mer, Eric Pack, qui est un guitariste fantastique. C'est un guitariste classique, mais il est tellement modeste que je lui ai dit, mais Eric, j'avais fait un masterclass là-bas, et je lui ai dit, mais Eric, t'as pas envie de jouer là-dedans? Il m'a dit, tout de suite, je vais le faire. Donc, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait jouer, tout ce qu'il avait à jouer, et il me renvoie les fichiers, et je dis, on touche plus à rien. Touche plus à rien. Et j'ai demandé à Benoît Wiedemann de rajouter du synthé, quoi, dessus, sur le pont, tu vois. Quand il y a le chorus, là, et tout ça, de guitare, c'est Benoît Wiedemann qui fait les orgues, un peu église, un peu de ça. Ouais. C'est très, finement joué. Et c'est tout a été construit comme ça, tu vois. Ça fait beaucoup de morceaux, mais je me suis dit, je m'en fiche, c'est du streaming, on s'en fiche. On s'en fiche complètement, soyons généreux, tu vois.
Cette façon de travailler, c'est une façon assez nouvelle pour toi quand même, puisque tout le monde est enfermé, et ça n'a jamais autant voyagé d'ailleurs, certainement. Comment tu le ressens, à la fois un isolement, parce qu'il n'y a pas cette communion des studios, de tout bas, de ce travail ensemble, avec ces petits moments, ces petits espaces un peu de où on rit, où on vit tout simplement, mais on est tous derrière une machine quand même.
Je vais t'expliquer, en fait, c'est pas si nouveau que ça. Moi, ça fait, je te dis, pour moi, ça fait 10 ans que déjà je faisais des séances avec comment s'aligner l'eau, tout ça, quand elle était à New York, tu peux jouer là-dessus et tout. Donc, j'avais toujours mon matériel de logique et tout ça avec mes Mac et tout ça. J'avais ça. Quand les studios ont commencé à fermer, à Paris. C'est-à-dire que moi, j'ai déménagé quand j'étais avec Chris Rea, ici où je suis, parce qu'il n'y avait plus rien dans les studios. C'est-à-dire que Yves Chamberlain, qui est propriétaire de Davout, c'est un ami, et il m'a dit, tout va fermer là. Tout ça, ça va fermer. Donc les SSL et tout ça, parce que il y a une... On part ailleurs, comme le téléphone, quoi. On est dans un numérique X, enfin bref. Et là, ce qu'on est en train de faire, tu vois, là, avec Zoom, c'est monumental. Donc, par contre, à la question, du confinement. Le confinement, c'est une contrariété pour nous tous, enfin pour nous tous, par rapport, comme je te disais tout à l'heure, au voyage, au jouer, au sortir de la maison sans se faire pénaliser, le confinement, quoi. Et donc, cet enfermement, c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire, on est là, on est tous en train de faire des gammes du matin au soir, on ne bouge plus de la maison, on est enfermé, tu vois. Donc, je m'imagine mal un mec qui est à Paris dans un 40 mètres carrés, sa batterie, comme le batteur, là, il est un peu plus grand, sa maison, mais Frédéric Sicard, il a joué avec les voisins qui tapaient sur le mur, tu vois, pendant que... En disant, tu peux fermer ta gueule.
En fait, c'est doublement pénalisant parce que les mecs ils peuvent plus aller jouer sur scène et en plus ils sont engueulés quand ils jouent chez eux. Donc ça devient très
voilà. Mais pareil, le trompettiste ici, magnifique d'ailleurs, ce mec qui joue monstrueux, Pablo. Pablo, voilà. Et Pablo, il a joué comme ça devant son ordinateur et les 3-4, il a fait bon, c'est parti, Sylvain. Il lisait comme ça, avec le petit micro de l'ordinateur et tout. Et c'est ce que tu entends dans Bob Stylist, tu vois. Et on a l'impression qu'il a un micro Neumann monstrueux et tout le truc. C'est un micro comme ça, tout petit d'ordinateur, pour te dire que pour s'en sortir, voilà. Tu vois, c'est ça qui est nouveau, en fait. Le truc qui est nouveau, c'est avec n'importe quel matériel d'enregistrement, tu peux faire un fichier de 4400 ou 48, parce que moi je voulais que ce soit en 48 kHz pour que ça puisse vraiment caler avec tout pour les vidéos, pour tout ça, quoi, tu vois, enfin tu connais ça par cœur. Et là-dessus, si tu veux, tout a matché comme il faut, vraiment bien matché. Et ça, c'était l'expérience. D'ailleurs, tout de suite après, Mario Canonge et Jean-Philippe Fanfan, Mario, il a fait son album et Jean-Philippe, il a fait le sien, tu vois, avec son frangin. Là, c'est sorti, là, enfin sorti. C'est là, par rapport à Bandcamp et tout ça, voilà.
Oh, tu vois. Parce que justement, je pense que le confinement, tout le monde, tous les musiciens que je rencontre, ils ont tous passé, ils ont composé peut-être 2, 3, 4 albums, parce que comme ils ne peuvent plus tourner, je pense que ça va peut-être générer une créativité incroyable. Je ne sais pas, peut-être une autre façon aussi de comme tu disais tout à l'heure, une autre façon de créer, une autre façon d'approcher la musique, ou peut-être cette solitude, peut-être.
Oui, non, je sais pas. Mais c'est de toucher, si tu veux, en gros, c'est on l'a naturellement. Bon, moi, je ne suis pas sur Facebook, Twitter, ça, c'est, j'aime pas trop, mais avec le téléphone, moi, j'ai mes enfants, des fois, ils vont voyager loin, mon fils, quand il allait au Japon. On parlait, je disais, mais t'es Victor, qu'est-ce que tu fous, t'es avec eux là, qu'est-ce que tu fous, et tout le truc, et j'ai trouvé ça magique, tu vois, que aussi loin, j'ai l'impression que là, c'est comme là, comme avec toi, tu vois, j'ai l'impression que tu es là, et quelle joie d'être enfermé, de pouvoir vivre ça, tu vois. Donc c'est ce monde-là que moi, j'essaie de... Parce que je suis très sauvage avec, je suis encore de l'ancien, je suis entre deux, quoi. Je suis à cheval entre mon monde des années 50 et ce monde qui est vertigineux, quoi. Tu vois, on dirait qu'on va aller sur Mars tout de suite, tu vois, j'ai pas envie. Hein.
Je voudrais quand même dire une petite chose, parce que on n'est pas tous égaux, finalement, parce que y a les musiciens africains, ben voilà, il faut qu'ils aient de l'Internet. Et s'ils n'ont pas d'Internet, ils ne peuvent pas travailler et ils ne peuvent pas échanger avec les autres, etc., etc. Nous, on a quand même privilégié, on peut dire que dans cette pandémie, on a quand même la chance d'avoir, ben voilà, d'avoir des abonnements, de pouvoir se connecter dans le monde entier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Oui, mais si tu veux, c'est quelque chose qui va rapidement, aussi rapide que les vaccins, mais rapidement. Même ici, notre monde, je ne parle pas politique, hein, je parle tout simplement une unité mondiale, notre monde ici de Macron et compagnie, tout le monde, va être obligé de leur filer des vaccins, va être obligé de filer des ADSL et tout ça pour que les gens puissent communiquer profondément, parce qu'il y a des super ingénieurs africains. Ce que je remarque, en fait, c'est le côté j'ai un studio, j'ai le pouvoir et je garde, je parle en matière de musique, hein, et je garde l'exclusivité à moi. Et mon voisin, s'il joue de la musique que personne n'a entendue ailleurs, je m'en fous. Ce qui se passe là, c'est la fédération entre musiciens. C'est-à-dire que quand tu vois les noms, c'est pas que c'est des gens qui, c'est pas des gens qui ne se connaissent pas, c'est des gens qui se connaissent, mais c'est juste une sorte de fédération, tu vois, de par, peut-être par moi, par par le fait que je leur ai proposé, ça te dit de jouer avec XYZ, qu'ils ont déjà joué avec, hein. Tu vois, Mario Canonge et Jean-Philippe Fanfan et Jean-Philippe Audin et sa femme et tout ça, tout le monde a joué ensemble dans des grandes scènes, à la télé, partout. C'est voilà, donc c'était pas si difficile que ça de rencontrer en fait les copains enfermés à la maison et psychiquement agacés par le côté enfermé, quoi. On n'a jamais eu ça, jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu appelé des invités auparavant, tu vois, pour, dans Make-up, où il y a Manu Katché et tout ça, Make-up. Non, pas 5 sur 5, parce que ça, on était avec Jean-Marie Salani, on était vraiment, c'était une commande. Mais Make-up et tout ça, ben, beaucoup de gens sont venus jouer réellement parce qu'ils avaient envie d'être dans cet album. Voilà, c'était ça l'époque, hein, je parle. Donc, c'est nouveau techniquement. Mais en même temps, c'est ma façon, moi, voilà, quoi, tu vois, de proposer les trucs que j'ai ici qui dorment. Tu vois, les big bands et tous les trucs. Là, je devais faire un disque de big band, un disque avec un quatuor à La Réunion, quatuor à cordes. Un an de travail à la poubelle, pas à la poubelle, mais je vais attendre. Si je ne meurs pas d'ici là,